Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité. Comprenez les gilets jaunes les plus radicaux. Voici les mots d'Emmanuel Macron retransmis sur France Culture hier soir. Il répondait à 64 intellectuels défendant ses choix et ses réformes. Il a notamment précisé qu'il ne voulait plus changer la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Nous y reviendrons dans un instant.
Nous entendrons ensuite un représentant des commerçants en France. Il est satisfait des mesures sécuritaires annoncées contre les casseurs, mais reste sceptique quant à leur application.
Manifestation interprofessionnelle ce mardi à l'appel de plusieurs syndicats, dont la CGT et Force ouvrière. Les enseignants sont particulièrement mobilisés.
Et dans ce journal, nous irons en Algérie. À l'aube d'une nouvelle journée de manifestation, le président Abdelaziz Bouteflika confirme qu'il prolonge son quatrième mandat.
Et puis notre correspondant à Londres nous expliquera l'impasse dans laquelle se trouve la première ministre britannique Theresa May. Un nouveau vote sur le Brexit est remis en question. Mais d'abord ce bilan qui va très certainement s'alourdir à mesure que la boue va se retirer. Au Mozambique et au Zimbabwe, le cyclone Idai a fait en fin de semaine dernière au moins 182 morts. Le président du Mozambique craint toutefois qu'il y ait rien que dans son pays plus d'un millier de morts. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Le pouvoir envisage de déclarer l'état d'urgence.
Le président Nwesi a survolé hier soir la zone sinistrée pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts. C'est un désastre humanitaire, a-t-il expliqué. Les eaux des rivières ont débordé, des villages entiers ont été rayés de la carte et sur des images aériennes, on peut voir des personnes qui sont toujours bloquées sur les toits de leur maison, entourées d'eau. C'est surtout à Beira, la grande ville portuaire du Mozambique, que les dégâts sont les plus importants. Cette ville de 500 000 habitants a été détruite à 90% selon la Croix-Rouge. Les écoles, les hôpitaux et bien sûr les habitations ont été emportées par les vents qui ont soufflé à plus de 250 km/h. Il n'y a plus d'eau courante ni d'électricité depuis 5 jours maintenant. Et aujourd'hui, l'inquiétude se concentre sur les barrages dans la région de Beira. Plusieurs ont déjà lâché et d'autres ont atteint leur niveau maximum. Selon l'ONG Oxfam, les réserves d'eau menacent de se déverser. Le président du Mozambique a demandé à tous les habitants qui vivent près des rivières de partir.
Merci beaucoup Valérie Crova pour ces précisions ce matin. Évidemment, un appel aux dons a été lancé. Entouré d'eau boueuse, l'eau potable manque cruellement pour les sinistrés en ce moment. L'eau, justement, impropre à la consommation dans trop de pays du monde, aujourd'hui encore. Selon l'ONU qui publie ce matin un rapport sur ce sujet, chaque année, 780 000 personnes meurent de maladies liées à une eau impropre à la consommation. L'eau potable, signe des disparités mondiales, objet de convoitises, chère dans de nombreux pays, volée même parfois. L'eau a joué un rôle dans plus de 260 conflits dans le monde depuis 2010. Voilà ce que dit l'ONU ce matin. Les échanges auront duré plus de 8 heures, retransmis sur France Culture et franceculture.fr jusque tard dans la nuit. Emmanuel Macron a débattu avec 64 intellectuels à l'Élysée, prenant le temps d'exposer sa vision de la France, mais pour une fois s'inscrivant dans le temps court, le temps politique, face aux spécialistes qui imaginent les réformes sur un temps plus long. Aucune mesure hier n'a été annoncée, mais des précisions ont tout de même été apportées par le chef de l'État, notamment sur la loi de 1905. Je me tourne vers vous, Stéphane Robert, vous avez suivi ces longs échanges hier soir, bonjour.
Oui, bonjour.
Emmanuel Macron, Stéphane, a précisé ce qu'était pour lui la laïcité. Il a pour cela pris son temps.
Oui, la laïcité, c'est une question extrêmement sensible dans notre pays. On avait appris en novembre dernier que le pouvoir exécutif envisageait un aménagement de la loi de 1905 qui définit les rapports entre l'État et les différents cultes. Il était notamment question de revoir le texte afin de mieux encadrer le culte musulman et le financement de l'islam. Face aux craintes qui se sont exprimées, Emmanuel Macron a expliqué hier soir qu'il ne souhaitait pas changer la loi. Et surtout, il a pris un long moment, vous le disiez, un bon quart d'heure, pour expliquer ce qu'était sa conception de la laïcité.
Comment moi je vois la laïcité? Moi ma vision est claire, c'est 1905 et rien que 1905. La laïcité, c'est un principe de la République qui assure la liberté de chacun et la protège. Je veux que chacun puisse croire ou ne pas croire librement, que dans le cadre de sa foi, ça puisse être aussi absolu qu'il ait besoin de la vivre, mais je demande aux mêmes citoyens de respecter absolument toutes les règles de la République.
Emmanuel Macron a malgré tout expliqué qu'il y avait des réformes à conduire parce qu'on a un sujet avec l'islam, a-t-il précisé. Il faut notamment clarifier la question des financements parce qu'ils nourrissent, selon lui, des comportements et certains groupuscules qui ne respectent pas la République.
Autre sujet, Stéphane, qui a pris du temps hier également lors des échanges, la mobilisation des Gilets jaunes.
Oui, alors sur cette question, c'est l'essayiste Pascal Bruckner qui a lancé les débats dès le début de l'émission. Écoutez.
Allez-vous interdire enfin les manifestations le samedi? Est-ce que Paris sera enfin débarrassé des Gilets jaunes? Ma deuxième question, c'est comment répondre à cette anarchie croissante qui fait de la France un pays en état de quasi-guerre civile larvée?
Réponse d'Emmanuel Macron, il a confirmé ce qui avait été annoncé un peu plus tôt dans l'après-midi.
Moi, je ne confondrai pas la manifestation et ce qui s'est passé samedi. Ça s'appelle une émeute de casseurs. Et donc, oui, les samedis prochains, les Champs-Élysées seront interdits à toute forme de rassemblement.
Mais un certain nombre de chercheurs, d'intellectuels ont émis également des critiques vis-à-vis de son attitude sur cette question des Gilets jaunes. Écoutez ce qu'en a dit le sociologue Jean Viard.
Les autres, c'est qui? Les autres, c'est les fils de prolos qui sont allés s'acheter une maison dans le périurbain depuis 50 ans. C'est eux qui sont en révolte, c'est pas les populations locales traditionnelles, c'est les nouveaux habitants du territoire rural. Ces gens-là, ils ont voulu sortir des HLM, ils ont voulu devenir propriétaires, ils ont la maison avec jardin, ils en sortent en voiture, en appuyant sur un bouton, ils vont au supermarché autour du rond-point. Et c'est ça qui est en révolte. Ces gens, ils avaient réussi leur vie. Ils étaient des fils de prolos, moi je dis réussis. Ils étaient contents, ils étaient biactifs, ils avaient deux diesels, ils avaient la maison Phoenix. Et ces gens-là, d'un coup, leur dit, vous êtes nuls. Faut circuler en vélo, faut être écolo. Et excusez-moi, monsieur le président, vous savez que je vous aime bien, mais enfin, vous avez mis du sel dans la plaie, les 80 km/h, le diesel, c'est-à-dire là où il y a un pays qui est en train de se couper en deux, vous avez mis tous les éléments pour faire crier partout.
Et face à cette critique, il n'y a pas eu de réponse concrète d'Emmanuel Macron, mais un long exposé sur comment il voyait la société française et comment elle évoluait, que je vous invite à consulter sur le site internet de France Culture.
Effectivement, compte rendu complet avec des vidéos à l'appui sur notre site franceculture.fr pour vous, auditeurs et internautes. Merci beaucoup, Stéphane Robert, pour ces précisions ce matin. Quel rôle ont les intellectuels dans le débat public? Question posée également par Frédéric Seyss après ce journal dans son billet politique. Nous évoquions donc à l'instant les gilets jaunes et les violences qui en émaillent les mobilisations. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté plusieurs mesures sécuritaires, évoquées d'ailleurs par Emmanuel Macron. Les manifestations dans certains quartiers pourront être interdites si la présence de casseurs est avérée. Sont cités les Champs-Élysées à Paris, la place du Capitole à Toulouse ou la place de Préberland à Bordeaux. Les manifestants pacifiques s'interrogent déjà sur leur liberté de se rassembler. Les amendes, par ailleurs, en cas de participation à des manifestations interdites, ces amendes seront augmentées. Et puis à Paris, le préfet de police, Michel Delpuech, a été limogé hier. Il sera remplacé par l'actuel préfet de Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallement. Alors qu'en pensent les commerçants, les principaux touchés par les violences? Sans compter le dernier samedi, les dégradations leur coûtent près de 170 millions d'euros déjà au total. Le président de la Confédération des commerces de France était hier à Bercy pour une réunion avec le ministre de l'économie. Après les paroles, Francis Palombi a demandé des actes, des preuves surtout.
Je milite pour cela, je le demande instamment, arrêt des manifestations sur certaines zones. Mais comment cela va se passer, je suis encore dans le scepticisme. Ce que je ne comprends pas non plus, et que ceux que je représente ne comprennent pas d'autant plus, c'est que comment se fait-il que quand une manifestation n'a pas été autorisée, elle se passe quand même? Il y a une incompréhension par rapport à l'application d'une sécurité basée tout simplement sur la loi. Alors, la loi anti-casseurs, s'il y a des points intéressants avec des pouvoirs supplémentaires au préfet, il faut vite, vite, vite la mettre en place. Bon, je dirais, comme Saint Thomas, j'attends de voir samedi prochain. Moi, je demande à ce que samedi prochain, dans les zones de commerce, parmi les principales, tous secteurs confondus, il n'y ait pas de manifestation. Nous ne pouvons plus. La France doit faire respecter son état de droit. C'est un beau pays. Notre image est massacrée au niveau de la France, mais surtout de l'Europe. Donc là, il faut que les mesures d'exception à situation d'exception.
Et notons que le ministre de l'économie Bruno Le Maire sera entendu cet après-midi par le Sénat à ce propos, tout comme le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Quid à présent des casseurs, ce qui oblige le gouvernement à faire des choix en matière de sécurité. Hier, plusieurs salles du tribunal de grande instance de Paris ont été réquisitionnées pour juger des gilets jaunes, deux jours après les violences à Paris. Ils étaient près d'une quarantaine, audience publique, auquel a assisté pour France Culture Roméo Van Maastricht. Il a constaté que les prévenus avaient tous à peu près le même profil.
Ils touchent le RSA, ils n'ont pas de travail et participaient pour la première ou la seconde fois à des manifestations de gilets jaunes. L'un d'entre eux a tenté de devenir conducteur de bus, sans succès. Il vit chez ses parents, sans compagne ni enfant. Il a lancé des projectiles et des bâtons de bois sur les forces de l'ordre. L'autre n'a que 30 ans, 4 enfants, sans domicile fixe, un t-shirt Che Guevara. Sur les Champs-Élysées, il a ramassé des vêtements de marque H&M pour ses filles dans les débris des vitrines brisées. L'air penaud, ils soufflent leurs excuses à demi-mot. « Je ne veux plus jamais manifester, c'est terminé », murmure le premier. « Je suis désolé, ça me servira de leçon », ajoute le deuxième. « Vous voyez des vitrines saccagées et des habits au sol. À aucun moment vous ne faites le lien ?» assène la présidente, ton cassant. « Arrêtez de me raconter n'importe quoi. » Une des avocates se risque à la métaphore. « Quand mon client lance un projectile, ce n'est pas le policier qu'il vise, mais la société. Pour lui, elle est la cause de tous ses soucis. » Et puis soudain, la tension monte d'un cran lors du délibéré. 1 et 3 mois de prison ferme. Les deux prévenus repartent les menottes au poignet. Dans la salle, le public commence à scander des chants d'encouragement. Les applaudissements couvrent les réprimandes de la présidente. « Justice bourgeoise, vous n'entendez pas la voix du peuple !» protestent les proches des prévenus. Ce à quoi la magistrate répond « Ce n'est pas ici qu'elle s'exprime. »
Entre les gilets jaunes et le grand débat national, la CGT, Solidaire, Force ouvrière veulent faire entendre leur voix. Les syndicats appellent donc ce mardi à une journée d'action contre le projet de loi sur la fonction publique notamment. Ils sont rejoints par les organisations de jeunesse et les enseignants. La grève s'annonce d'ailleurs particulièrement suivie dans les écoles maternelles et élémentaires. 2 enseignants sur 5 indiquent a priori qu'ils ne feront pas classe ce mardi. Eux protestent contre l'orientation de la politique éducative du gouvernement. La mobilisation sociale plus largement, nous y reviendrons avec notre invité des matins sur France Culture, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Il est à vos côtés, Guillaume, et nous le retrouverons dans une dizaine de minutes.
Absolument. En attendant, il est 8h11 sur France Culture. C'est la suite des matins avec votre journal. Clara Lecoq-Réal, Abdelaziz Bouteflika s'est exprimé une nouvelle fois hier soir.
Oui, dans une lettre reprise par les médias algériens, le président confirme qu'il prolongera son 4e mandat au-delà du terme constitutionnel, à savoir le 28 avril prochain. Abdelaziz Bouteflika restera donc à la tête de l'Algérie jusqu'à l'organisation d'un nouveau scrutin qui ne sera organisé qu'à l'issue d'un processus de révision constitutionnelle. Le mouvement de protestation n'y change donc rien et les manifestants en Algérie n'ont pas vraiment apprécié hier. C'est un reportage de notre envoyé spécial Waïba Filali.
Areski est venu assister à un débat citoyen en plein centre-ville d'Alger. Il a découvert sur son portable la dernière lettre d'Abdelaziz Bouteflika.
On ne sait même pas s'il est vivant ou pas, on ne le voit pas. On voit que des lettres et il répète les mêmes choses. Consensus national, conférence et tout, gouvernement de transition, il dit toujours la même chose. Il doit comprendre que la rue, ça fait la 3e fois ou la 4e qu'il répète la même chose, la rue, elle dit non, on demande le départ du régime, complètement.
Hania, assistante de production de 32 ans, a lu également la lettre et elle se dit qu'il est surtout temps d'arrêter de le faire.
Ce que je pense, c'est qu'il faut arrêter de donner de l'importance à ce genre de lettres. Il n'y a rien d'intéressant, en fait, ils sont en train de répéter, de se répéter. On n'en veut pas de leur conférence nationale. On fera notre conférence sans eux. J'ai l'impression qu'ils essayent de gagner du temps.
Une lettre prise avec beaucoup d'agacement, d'autant plus qu'elle a été rédigée à la veille du 19 mars, fête de la victoire. Le 19 mars 1962 avaient été signés les accords d'Évian.
Waïba Filali depuis Alger pour France Culture. Ce mardi, la jeunesse algérienne se mobilise une fois encore. Les enquêteurs néerlandais cherchent toujours à comprendre les motivations de l'homme qui a ouvert le feu hier dans un tramway d'Utrecht. 3 personnes sont mortes, 5 ont été blessées. La piste terroriste est privilégiée, mais celle d'un différend familial n'est pas totalement exclue. Le tireur a été interpellé hier en fin d'après-midi. Les députés britanniques voteront-ils une deuxième fois à propos de l'accord de Theresa May négocié sur le Brexit? La première ministre espérait réussir à arracher cette semaine une majorité, mais il lui manque 75 voix. En quelques heures, elle va donc lancer ses dernières forces pour convaincre les députés, Antoine Gignot.
Première cible, les unionistes nord-irlandais. Theresa May leur promet une augmentation des subventions. Elle organise des réunions avec les responsables du parti, sans résultat pour l'instant. La deuxième cible, évidemment, c'est le parti conservateur, avec les déclarations médiatiques de plusieurs hauts responsables, comme Esther McVie, ancienne ministre du Travail. « J'ai changé d'avis », dit-elle, « je suis prête à soutenir la première ministre ». Déclaration insuffisante pour le moment. Mais l'homme qu'il faut surtout convaincre, c'est John Bercow, le président de la Chambre des communes, qui a voté pour rester dans l'Union européenne, a sorti hier soir sa botte secrète. Il s'appuie sur une jurisprudence qui date de 1604 et il affirme que Theresa May n'a pas le droit d'organiser un nouveau vote sur un texte qui a déjà été rejeté. Il faut, dit-il, des changements substantiels. Stupeur et colère au gouvernement, le ministre des prisons compare le président de l'Assemblée à Humpty Dumpty, le personnage à tête d'œuf dédaigneux d'Alice au pays des merveilles. Ce Brexit version « je suis en retard, en retard, en retard » est décidément de plus en plus curieux.
Un Brexit que les députés veulent reporter reste encore et toujours à savoir jusqu'à quand. Le temps en France métropolitaine, il sera calme ce mardi, marqué par de belles éclaircies avec des températures encore un peu fraîches. 6 degrés ce matin à Strasbourg, 8 à Lille et Lyon, 9 degrés en région parisienne et à Bordeaux, entre 11 et 13 près de la Méditerranée.
C'est pour ça que vous avez votre petite laine, Clara Lecoq-Réal.
Toujours.